Voilà. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent, Radio Galère. C'est aujourd'hui, 10 juillet 2024. Alors aujourd'hui, ben, tout d'abord, bonjour à la régie. Salut la régie, bonjour. Ben, je ne sais pas qui c'est, mais bonjour quand même, on verra ça après, hein, d'accord? Ok, c'est parfait. Alors aujourd'hui, trois sujets qui nous intéressent bien même. D'une part, les congés payés. C'est le droit de vote des femmes. Également, et un petit tour sur les élections européennes, sur le premier et deuxième tour, et voir comment cela risque de se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Là, croyez-moi, c'est pas gagné, mais alors pas du tout. Voilà, alors commençons par les congés payés. Alors, je fais un petit historique des congés payés parce que c'est très important. Et donc, les premiers congés payés ont fait leur apparition en France uniquement pour les fonctionnaires, à la suite de la promulgation, pardon, d'un décret de Napoléon III. Napoléon III du 9 novembre 1953, voilà. Bon, d'autres lois à ce sujet sont abordées, d'ailleurs, à la même période, par exemple, la Banque Holiday a s'est votée, donc, en Angleterre, en 1871, et qui accordait 4 jours de congé pour les employés de banque en Angleterre. Au Pays de Galles et en Irlande, de là, le modèle qui ne s'appliquait pas à toutes les catégories de travailleurs, a été exporté actuellement au Canada et aux États-Unis. Les congés payés ont par la suite été introduits en 1905 en Allemagne, c'est originaire d'Allemagne, en 1910 en Autriche-Hongrie et dans les autres pays scandinaves, dans les années 1920 et au début des années 1930 en Italie, 1927 en Tchécoslovaquie, Pologne, Luxembourg, Grèce, Roumanie, Espagne et Portugal. Alors, en France, bien au-delà de l'instauration initiale de 1853, le concept ne cesse d'évoluer et se développe sous le front populaire, qui met en place un système de congés payés de 2 semaines. En 1936, la Belgique fonde de même dès le 27 juin suivant. Au niveau mondial, un nombre croissant de personnes bénéficient de congés payés, puisque selon l'Organisation internationale du travail, OIT, on comptait 3,5 milliards de bénéficiaires à la fin des années 1880 et 4 milliards à la fin du deuxième millénaire. Au début du 19e siècle, les congés payés existent encore dans de nombreux pays. En Allemagne, en 1903, l'Association centrale des travailleurs de la brasserie allemande, l'organisation qui a précédé le syndicat de l'alimentation et de la restauration, a réussi à négocier des conventions collectives avec les brasseries du réseau de Stuttgart et la brasserie de Griez. En vertu de ces accords, les employés reçoivent 3 jours de congés payés après au moins 1 an de service. Et pendant la République de Weimar, le nombre moyen de jours de vacances des ouvriers et des employés est passé de 8 à 12 jours. Presque tous les travailleurs ont droit à un congé annuel payé dans les années 1930. À l'occasion de la création de l'organisation Kraft durch Frucht, les nationaux socialistes, voilà, pour ne pas les nommer, ont étendu le droit aux vacances à 2 ou 3 semaines par an sans toutefois le réglementer par une loi. Voilà. Alors en France, bon, l'idée de vacances payées naquit dans les années 1920. En France, il existe des exemples d'initiatives à cette époque, notamment sous l'inspiration allemande. C'est ainsi qu'en Alsace, les 2/3 des employés bénéficient déjà de congés payés en 1936, pour arriver maintenant jusqu'à 2024. Alors là, les congés payés, ben, c'est pris sur la poche du patron. Il ne faut pas chercher plus loin. Voilà. Bon, Léon Blum écrivait alors des articles pour l'information. Cette initiative qui intéressa vivement, ce fut sans doute l'un des germes de cette révolution culturelle que fut la création des congés payés. Bon, mais néanmoins, la victoire du Front populaire, donc à l'époque, aux élections législatives du 3 mai 1936, provoque un élan de revendication chez les travailleurs. Il lance un mouvement de grève et d'occupation d'usines à travers toute la France. Ce qu'on appelait les grèves joyeuses. Les grèves étaient joyeuses à l'époque. Maintenant, elles ne sont plus. Impliquant près de 2 millions de travailleurs, ces grèves paralysant tout le pays, entraînant l'ouverture de négociations avec le patronat sous la tutelle du nouveau gouvernement, elles aboutissent aux accords Matignon, créant notamment les conventions collectives. Fixé à 15 jours à l'origine d'un 12 jours ouvrables dans la loi du 20 juin 1936, les congés payés minimum obligatoires se sont allongés au début du XXe siècle par l'action législative Il passe à 3 semaines, 18 jours ouvrables par une loi du 28 février 1956, votée donc à l'unanimité sous le gouvernement Guy Mollet. Guy Mollet, c'était un président, si je ne fais pas erreur. Puis promulgué le 27 mars. Le 20 mai 1965, André Bergeron, lui c'était un secrétaire d'État général, c'était quelqu'un de force ouvrière, je crois, obtient un accord avec le Conseil national du patronat français pour passer à 4 semaines. Les gouvernements de Charles de Gaulle et Georges Pompidou rechignent à présenter un projet de loi qui est voté à l'unanimité par l'Assemblée du 2 mai 1968. Cependant, à la suite des événements de mai 1968, la promulgation n'a lieu que le 17 mai 1969, donc un an après les événements de mai-juin 1968. Le passage donc à 5 semaines réalisé par une ordonnance du 7 janvier 1982 du gouvernement Pierre Mauroy, considéré comme faisant partie des lois Auroux. Voilà. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu que la France pour les congés payés, hein, il y a eu aussi l'Italie. Hein. Bon, en Italie, le droit à une période annuelle de repos rémunéré a été reconnu en Italie dès le 16e siècle. Dans la Charte du Travail, l'article 16 de la Charte du Travail du 27 avril 1927 assure aux travailleurs italiens le droit à une période de congé payé. La Constitution ne précise pas la durée minimale de cette période, ni dans le texte original, ni dans les ajouts, ni dans les ajouts ultérieurs. Bon, la règle principale en la matière a longtemps été là. Voilà. 2019 de 2109 du Code civil, période de repos, qui stipule le salarié a droit à un jour de repos par semaine, qui coïncide en principe avec le dimanche. Il a également droit à un an de service ininterrompu, à une période annuelle de congé payé, éventuellement continue à une période, à un moment à déterminer par l'employeur, à tenir compte des besoins de l'entreprise et des intérêts du salarié. La durée de cette période est déterminée par la loi, par les règles et coutumes de l'entreprise ou selon l'équité. Un minimum de 28 jours transposé par toutes les conventions collectives a été introduit par le décret législatif du 8 avril 2003, la circulaire du ministère du Travail, numéro 8 de 2005. Voilà, c'était une petite explication sur les congés payés. Il est 2h07, je vais dire à la régie de mettre un peu de playlist. Merci la régie. Et je reprends l'émission.
Only a name would be here. Benvenuto.
Bienvenida.
Ahla ou sahla. Tu viens d'arriver à Marseille. T'as besoin d'aide, de conseils, d'infos. Tu cherches de l'aide pour tes papiers.
Looking for help with your papers.
De Al-Qaïd ou Razi, je peux papier.
Des cours de français.
French lesson.
Classes de français.
Zmane français.
À manger.
L'akl.
Food.
Un centre de santé,
Marcel
de Sahara,
un health center.
Voilà, il est 14h12, je reprends le cours de l'émission, après la petite explication sur les congés payés. Maintenant, nous allons voir ce qu'il en est pour le droit de vote des femmes. Hein. Droit de vote des femmes, ben, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, j'ai trouvé pas mal de documentation, je vais essayer, comme ça s'appelle, de donner le maximum de non pas de renseignements, mais le maximum de thèmes pour arriver à faire quelque chose de correct. Voilà. Donc, droit de vote des femmes, voilà. Les femmes ont donc obtenu le droit de vote en France, bon, par une ordonnance du 21 avril 1944. Voilà. Donc, durant la dernière guerre mondiale. Après plus de 150 ans de mobilisation civique, la décision fut prise à l'issue d'un débat à l'Assemblée d'Alger, où Fernand Grenier, représentant du Parti communiste à l'époque, introduisit ce droit dans la discussion qui se bornait à envisager l'éligibilité. C'est le résistant Fernand Grenier qui défendra le droit de vote des femmes à l'Assemblée le 23 mars 1944. L'Assemblée réunie à Alger adopte le principe du droit de vote des femmes, 51 voix contre 16 contre. De Gaulle ratifiera ensuite le droit de vote et éligibilité des femmes. Voilà. Bon, autre question posée, bien sûr, qu'est-ce que c'est que le droit de vote des femmes? Eh bien voilà. C'est tout simplement quelque chose qui leur permet de s'exprimer par les urnes. Il suffit de prendre un bulletin et puis de le mettre dans une enveloppe et de le mettre dans une boîte, ce qu'on appelle une urne. Voilà. Et c'est valable pour tous les votes qui puissent exister, aussi bien au niveau pour les élections présidentielles, aussi bien au niveau pour les législatives, aussi bien au niveau pour les cantonales, quoique les cantonales, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Voilà. Voilà. Alors, l'entre-deux-guerres, pendant cette période, le combat pour le droit de vote des femmes gagne en visibilité. Les femmes s'organisent et luttent pour leurs droits politiques. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1944, général de Gaulle, oh, ça y est, j'ai un bug là. J'ai un bug sur mon ordinateur, mais il ne manquait plus que ça. Bon, je vais dire à la régie de mettre un peu de playlist, j'ai un petit souci de bug là. Merci. I don't know, 'cause I'm gonna show you the way. voilà, je reprends le cours de l'émission, il y a eu un bug, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, droit de vote. Le droit de vote donc, permet aux citoyens d'un État de voter pour exprimer leur volonté, à l'occasion donc de scrutin. Bon, dans son application contemporaine, il pose un choix et permet soit d'élire le gouvernant à but représentatif, soit de répondre à une question posée par la gouvernance sous forme de plébiscite ou de référendum. Les démocrates modernes présentent le droit de vote comme un droit civique fondamental. À partir du 19e siècle, le vote devient synonyme de démocratie, alors qu'auparavant désignait un régime aristocratique ou oligarchique. Le premier régime politique qui donne son nom à la démocratie est né dans la cité d'Athènes durant l'Antiquité. L'élection ne fut pas immédiatement retenue comme mode de désignation des responsables politiques. On les préfère d'abord des tirages au sort avec la réforme de Périclès au niveau du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on retourne en arrière, c'est déjà qu'on s'appelle chez les Grecs. Le droit de vote est étendu aux citoyens. La notion de citoyenneté est alors réservée aux hommes, nés de père athénien et d'une mère fille de citoyens excluants, les esclaves et les femmes considérées respectivement comme des biens d'éternels mineurs. Les méfaits, généralement grecs, mais étrangers à la cité, placés sous la responsabilité obligatoire d'un logeur ou hébergeur, ainsi que des étrangers non grecs, dénommés donc ce qu'on appelait à l'époque les barbares. Voilà. Donc vous voyez, cela ne date pas d'aujourd'hui, mais bien dans les siècles passés. Voilà. Bon, ces derniers seront exclus de la communauté politique dans la plupart des cités grecques. Voilà. On estime qu'il y avait entre 30 et 60 000 électeurs pour 250 000 habitants donc à l'époque. À l'époque, c'était déjà beaucoup. Voilà. Bon, là, il y a eu aussi la République romaine qui fait suite à la monarchie des rois étrusques, repose sur une oligarchie patricienne, le suffrage censitaire permet à tout citoyen qui paye la quantité d'impôts requise d'être électeur ou éligible et exclut les femmes, les esclaves et les étrangers. Bon, le vote se fait essentiellement par décision majoritaire, comme l'atteste le vieil adage roumain Cum dumum tangit omnibus, tractaris et approbari debet. Ce qui touche tout le monde doit être considéré et approuvé par tous. C'est une phrase. Du Moyen-Âge jusqu'à une époque moderne, les institutions civiles et religieuses privilégient le vote par unanimité. Puis, à partir du XIIe siècle, par majorité, sous l'effet du VIe siècle, Concile du Latran et du pape Innocent VI, qui affirme que la collectivité commune, université, confrérie, est un nommé intellectuel, une personne morale, notamment dans les ordres religieux, par la major et senior par la part sage et la part majoritaire. Voilà. Bon, bien sûr, il y a eu ce qu'on s'appelle d'autres votes dans d'autres pays. Bien sûr, il y a eu l'Islande, voilà. Il y a eu les îles Féroé, il y a eu la Suède, il y a eu une ville que l'on connaît bien, Toulouse, par exemple, qui depuis 1189, la ville est administrée par des conseillers appelés capitouls de l'Occitan, capitole, représentant chacun un quartier de la ville après des conflits de pouvoir, et avec le roi de France qui veut limiter leur pouvoir, l'Assemblée est supprimée à la Révolution française. Bon, il y a eu aussi, comme ça s'appelle, la République donc, de Saint-Martin, la République de Venise, là aussi il y avait, comme ça s'appelle, il y avait des droits de vote. Bon, ville libre de l'Empire germanique en Allemagne, oui, aussi, canton suisse, etc., etc. L'élargissement progressif du droit de vote, voilà. Le suffrage universel masculin, le droit de vote masculin, a été généralement étendu de manière progressive, étant à l'origine presque systématiquement censitaire. Le vote, à défaut d'être considéré comme un droit universel, était perçu comme une fonction réservée aux hommes les plus fortunés à l'époque. C'est-à-dire ceux que la fortune a doté d'une véritable indépendance matérielle, d'un esprit conservateur par la propriété et la compétence par l'éducation. Bon, à titre d'exemple, en France, la composition du corps électoral a souvent varié pour le vote du tiers-état et aux états généraux. Les chefs de famille inscrits au rôle des impositions étaient électeurs, sauf dans certains territoires où un census était imposé. Tandis que sous la Révolution, le suffrage est restreint en 1791 avec la distinction entre citoyens passifs et citoyens actifs, soit les deux tiers de la population masculine de l'époque. Ces derniers étant les seuls à bénéficier du droit de vote après quelques tentatives d'élargissement du corps électoral, le suffrage censitaire est établi en 1814 jusqu'en 1830. Sous la Restauration, le cens s'est levé. Et s'il avait que moins de 100 000 hommes peuvent alors voter. Après 1830, le cens s'est abaissé, permettait un doublement du corps électoral. En 1848, le droit de vote est accordé à tous les hommes limités. En 1850, rétabli mais contrôlé sous le Second Empire. Voilà. Second Empire du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. Il ne devient réellement et définitivement universel masculin que sous la Troisième République, septembre 1870 à juillet 1940. Bon, l'entre-deux-guerres voit plus tard la génération du suffrage universel masculin à tous les régimes représentatifs. Bon, la question du suffrage masculin universel opposait généralement libéraux et plus tard la gauche dans son ensemble, favorable à son instauration, et conservateurs d'un avis contraire. Les ultra-légitimistes, convaincus que le vote des populations paysannes sous l'influence du clergé et de la noblesse submergerait le vote progressiste des bourgeois. Militaires, cependant, eux aussi pour l'instauration du suffrage universel masculin dès le début du XIXe siècle, les victoires du Parti de l'Ordre de 1849 à 1876 datent de la première grande victoire républicaine aux élections législatives leur donnent un temps à raison. Voilà, c'était une petite histoire donc sur le vote universel. En ce qui concerne les femmes maintenant, bon, les femmes dans leur ensemble accèdent donc au droit de vote bien plus tard que les hommes. La première République de la Constitution énonce clairement le droit de vote des femmes et celle de la République de Corse de Pascal Paoli en 1755. Elle participe au suffrage censitaire dans quelques pays, comme en Suède en 1862 ou au Royaume-Uni en 1869. Pour les élections locales, le vote des femmes est d'abord autorisé dans plusieurs colonies et l'État américain, comme le Wyoming en 69, puis la Nouvelle-Zélande devient en 1893 le premier pays à octroyer le droit de vote à toutes les femmes, y compris les femmes maoris. L'Australie méridionale fera de même l'année suivante, excluant les femmes aborigènes, mais permettant aux femmes de se porter candidates aux élections législatives, ce qui n'était alors pas le cas en Nouvelle-Zélande. Les pays scandinaves sont les premiers en Europe à octroyer le droit de vote donc aux femmes. Finlande en 1966, Suède en 1909. Pour les élections locales, Norvège en 1913, Islande en 1915. Voilà. Et je resterai là pour ces petites explications. Donc le droit des femmes ont bien acquis le droit de vote et il faut absolument qu'elles s'en servent pour voter, pour participer à la vie d'un pays. Voilà. Et je vais dire à la régie de mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici 2-3 minutes. Thank you. Merci la régie. Bien, élections européennes 2024, première et deuxième tour. Les élections donc européennes de 2024 se sont donc tenues les 8 et 9 juin 2024, afin d'élire les 81 eurodéputés représentant la France au Parlement européen. Sur les 720 eurodéputés qui composent le Parlement, 38 de candidats sont présentés aux électeurs. Voilà. À la suite de ces élections marquées par la défaite de la majorité présidentielle, une nette percée de l'extrême droite, le président de la République, Emmanuel Macron, décide de dissoudre l'Assemblée et de convoquer des élections législatives anticipées. Bon, maintenant, il faut quand même rentrer dans le contexte. Hein. Bon, Union européenne. Au niveau européen, il y a une personnage qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui a présidé la Commission européenne pendant 5 ans. Son mandat a été marqué par la pandémie du Covid qui a été suivi par l'achat en commun du vaccin et de la mise en place d'un plan de relance à l'époque. Voilà. Et même à ce niveau-là, même là, voyez-vous, on parle déjà donc de cette histoire de pandémie, mais j'y viendrai sur cette histoire de pandémie. Voilà. Suivi par l'achat en commun donc de vaccins et la mise en place d'un plan de relance européen commun. Il a aussi été marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a eu pour conséquence dans l'Union européenne une montée des prix de l'énergie, un retour de l'inflation et une volonté de renforcer les moyens de défense de l'Europe. L'Ukraine s'est vu octroyer le statut de pays candidat à l'Union européenne, tout comme la Moldavie et la Géorgie. Après, alors que les élections européennes de 2019 avaient été précédées par le mouvement des jeunes pour le climat et avaient vu un bon score des formations écologistes, le mandat d'Ursula von der Leyen a aussi été marqué par la mise en place du pacte vert pour l'Europe, Green Deal, porté par le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. Ce pacte vert a été fortement critiqué à partir de 2023, notamment par les syndicats agricoles. En 2023, donc on recule un peu, un an arrière, hein, les projections annoncent à moins d'impuissance des partis eurosceptiques et de l'extrême droite, portés par les récents succès électoraux aux Pays-Bas, en Italie, et en Finlande et en Suède. Bon, l'Union européenne dans une situation de ralentissement économique, bon, ça on le sait, ce n'est pas une nouveauté. Des mécontentements en zones rurales doivent faire face au changement climatique et les problématiques de migration reviennent régulièrement dans l'actualité. France, présidence d'Emmanuel Macron. Seconde présidence d'Emmanuel Macron. En France, les élections européennes 2024 sont les premières élections au suffrage universel direct depuis les élections présidentielles et législatives de 2022, qui ont vu la réaction d'Emmanuel Macron. La perte de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'émergence d'une union des partis de gauche et un nombre record de députés d'extrême droite. Les deux années qui ont suivi la réélection du président de la République se sont déroulées dans un contexte social tendu, notamment à la suite de la réforme des retraites, augmentant l'âge de départ de 62 à 64 ans, promulguée sans vote par l'utilisation de l'article 49,3, ou alinéa 3, de la Constitution, qui a mené un gouvernement, qui a mené un mouvement social contre la réforme des retraites de grande ampleur. Le vote à la fin de l'année 2023 d'une loi sur les migrations qualifiée par le Rassemblement national de victoire idéologique provoque des tensions dans le camp présidentiel. Sur le plan économique, la France est confrontée à un défi budgétaire plus élevé que prévu par le gouvernement. La coalition du président est également confrontée à une absence de figure majeure pour mener la liste prévue pour le scrutin européen. La plupart des membres du gouvernement, comme Bruno Le Maire, sont refusants, ont envisagé dans les sondages Stéphane Séjourné et finalement nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans le gouvernement de Gabriel Attal, rendant peu probable sa désignation comme tête de liste. Emmanuel Macron choisit finalement l'eurodéputé Valérie Ayer, vu par certains membres de la majorité, comme un choix par défaut. Alors là, NUPES, non-reconduction de la NUPES, dès l'été 2022, plusieurs cadres de la coalition des partis de gauche Nouvelle Union Populaire Écologique, la NUPES, dont Pierre Jouvet au Parlement socialiste, PS, propose la mise en place d'une liste commune pour les élections européennes. Cependant, à la fin de 2022, Europe Écologie Les Verts, par la voix de sa secrétaire Marine Tondelier, exclut totalement la possibilité d'une liste commune à la NUPES. Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste français, PCF, se déclare quant à lui sceptique au sujet de la formation d'une liste commune réunissant des partis ayant des divergences profondes sur la position à tenir vis-à-vis de l'Union européenne. Le 1er janvier 2023, le secrétaire général des jeunesses communistes, Léon de Fontaine, est désigné par le Conseil national du PCF, chef de file des communistes, pour les élections européennes de 2024, avant que Marie Toussaint soit elle-même désignée tête de liste des écologistes. Le 10 juillet, par les militants pour les élections européennes 2024, avec 59,5% face à David Cormann, qui sera en deuxième position sur la liste Raphaël Guzman, déclare le 13 septembre sa candidature aux élections européennes, en principe avec le PS qui n'a pas encore choisi sa tête de liste. L'essayiste rappelle l'existence cette fois d'opposition de fond avec les communistes et les insoumis par rapport à 2019, notamment sur la question de l'Ukraine et de l'Europe, de la défense. Le 5 octobre, les militants du PS votent à plus de 90% pour une liste socialiste autonome, actant définitivement l'absence de liste commune au parti de la NUPES. Raphaël Glucksmann est finalement intégré tête de liste par le PS le 31 janvier. Manon Bry est également désigné pour conduire à nouveau la tête de la liste de la France insoumise du même mois. Bon, les sondages maintenant. La liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella est en tête des intentions de vote. Depuis le début de la campagne électorale, devant stand de plusieurs points, la liste de besoin d'Europe menée par Valérie Ayer et de Réveiller l'Europe de Raphaël Guzman. Ces listes sont respectivement deuxième et troisième dans les intentions de vote, mais l'écart entre la liste de Valérie Ayer et celle de Raphaël Glucksmann s'est réduit depuis le début de la campagne électorale. Deux semaines avant les élections, un sondage réalisé par Via Voix établit que la liste du Renouveau National recueillerait 32% des intentions de vote. Effectivement, au deuxième tour, ils sont bien passés devant le Front Populaire. Donc 32% d'intention de vote, soit 15 points de plus que la liste de la majorité présidentielle qui se situe en deuxième position selon le sondage. Voilà, bon, il y a eu des députés sortants, il y a des députés qui sont sortis, donc d'autres qui ont conservé leur siège, etc., etc., etc. Bon, liste politique, prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen, Rassemblement National, Renaissance soutenue par La République En Marche, Le Modem et ses partenaires, Europe Écologie, Les Verts et Écologie au Centre Région et Peuple, solidaire, Union de la Droite et du Centre, La France Insoumise, Envie d'Europe Écologique et Sociale, etc., etc., etc. Bon, il y en avait là un peu pour tous les goûts. Voilà, donc, bilan des députés français, arrivé en première position aux élections européennes de 2019. Les députés français du Rassemblement national inscrits au groupe d'identité démocrate sont dans la position et considèrent donc qu'ils n'ont pas de bilan à défendre. Voilà. Selon Jean-Paul Garot, qui est un député européen du Renouveau National, le groupe s'est opposé à 60% des textes proposés au Parlement européen. Le parti est critiqué pour avoir remis peu de rapports comparés aux autres partis. Ouais, je reste, voilà. Je voudrais seulement dire que nous sommes dans une situation vraiment, vraiment critique. Critique parce que tout le monde... Bon, nous avons comme premier ministre actuel Gabriel Attal. Mais il va falloir nommer un nommé ministre. Et ce nommé ministre sera de quel bord ? C'est ça qu'il faudrait savoir. Et ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas encore le savoir. Il y a une bataille terrible qui se livre en ce moment pour la place du premier ministre. Bon, quand Emmanuel Macron, ben, il est président, il restera encore président jusqu'à la fin de son quinquennat. Et puis par la suite, on verra bien ce qui se passera. Peut-être qu'il se représentera, peut-être qu'il ne se représentera pas, peut-être qu'il ne sera pas élu, ça, on ne sait pas. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà. Je vais demander à notre collègue de nous mettre un peu de playlist et je reprends l'émission.
I'll take your questions.
Is it a virus?
We don't know.
How does it spread? Is it airborne?
Airborne is a possibility. We don't know.
But is this an international health hazard or a military concern?
Both.
Are these people alive or dead?
Feeling worthless. Feeling helpless. I want to share.
Merci la régie, sympa. Voilà, après avoir parlé un peu de tout ça, voyons un peu ce qu'il en est, ce qui concerne les congés payés. Alors, les congés payés, date calcul, les droits du travail, aujourd'hui ce sont les congés payés pour droits du travail, nous verrons bien un peu plus tard. Comment calculer ces congés payés avec les règles du Code du travail, tout ce que les salariés et les employeurs doivent savoir, ce congé payé. quand tu appelles ton congé payé, hein, ben, les congés payés sont des jours au cours duquel le salarié est en droit de s'absenter de son entreprise tout en conservant la rémunération versée par son patron ou son employeur. J'aime bien le mot patron, moi ça me plaît. Le droit que j'ai payé est à la charge de l'employeur et fixé par la loi et l'article L3141-1 du Code du travail. Et que j'ai payé constitue un droit pour le salarié, que celui-ci soit en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel. Le régime général que j'ai payé correspond aux avantages minimaux accordés aux salariés à l'absence d'accord collectif ou de convention collective, généralement plus favorable à leur égard. En effet, le régime légal des congés payés est, comme son nom l'indique, est celui qui est défini par le Code du travail. Et suivant. Mais dans de nombreuses entreprises, les salariés peuvent bénéficier de dispositions plus favorables provenant de la convention collective, d'un accord collectif ou bien d'usage d'entreprise. Bon, rien n'empêche un employeur d'accorder des avantages spécifiques à son personnel. Le régime légal doit correspondre en réalité aux avantages minimaux accordés aux salariés à une entreprise. À combien de jours de congé t'es payé à ton droit ? En fait, c'est un peu tout dépend aussi, comment ça s'appelle, du contrat qui a été signé. Mais le nombre de jours de congé payé annuel est strictement encadré. Le salarié a principe droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, effectué au cours de la période de référence chez le même employeur, ce qui correspond à 30 jours ouvrables par an. L'entreprise peut calculer les jours de congé, non pas un jour ouvrable, mais un jour ouvré. Dans ce cas, les droits du salarié doivent être au moins égaux à ceux qu'ils auraient acquis en cas de calcul des congés. Un jour ouvrable, si on ne peut pas décompter le temps de travail en mois entier, on compte par période de 4 semaines de 24 jours. Donc ça fait à peu près un mois. Voilà. Bon, certaines conventions collectives prévoient des jours de congé payés annuels supplémentaires. C'est notamment le cas de la convention Syntec qui prévoit un pour ouvrer supplémentaire après 5 ans d'ancienneté, 2 jours après 10 ans et ainsi de suite, avec un jour de congé supplémentaire tous les 5 ans d'ancienneté et plus. Voilà. Mais ça, c'était avant. Le salarié en CDD acquis ces jours de congé payés dans les mêmes conditions qu'un salarié en CDI, soit 2,5 jours ouvrables par mois, le travail de travail, effectif chez le même employeur. Et si le salarié en CDD ne prend pas les jours de congé qu'il a acquis, il a droit à une indemnité de congé payée que l'employeur doit lui verser à la fin du contrat de travail. C'est-à-dire que prendre ses congés n'est pas non plus une obligation. Hein. Si un salarié ne veut pas prendre ses congés, il ne les prend pas et il sera payé donc un peu plus. Un salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits qu'un salarié à temps complet. Il acquiert donc 2,5 jours ouvrables par mois de travail pour décompter le nombre de jours de congé pris par le salarié à temps partiel. Il faut fixer comme point de départ le premier jour d'absence où le salarié aurait normalement dû travailler. Ensuite, on ajoute les jours ouvrables ou jours ouvrés compris entre cette date et le jour de la reprise du travail. La prise de congé doit respecter certaines règles. Ainsi, pendant sa période de congé principale, généralement pendant les vacances d'été, le salarié ne peut pas prendre plus de 24 jours ouvrables d'affilée, soit 4 semaines de congé, sauf si dérogation particulière est justifiée par des contraintes géographiques. Si le congé est inférieur ou égal à 2 semaines, soit 12 jours ouvrables, il doit être pris de façon continue. Quelle que soit l'ancienneté, les jeunes salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année donc précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. Bon, quelle est la période de référence des congés payés ? La période de référence pour le calcul des congés payés va du 1er juin précédent au 31 mai de l'année en cours. Toutefois, un accord de branche, un accord d'entreprise ou un accord d'établissement peut prévoir une période de référence différente. Voilà. En outre, pour les entreprises qui doivent s'affilier à une caisse de congés payés, comme dans les BTP, par exemple, la période de référence va du 1er avril au 31 mars. Alors, est-on obligé de prendre ce congé payé ? Eh bien non, on n'est pas obligé, on n'est jamais obligé. L'employeur ne peut pas priver le salarié des congés payés. A contrario, celui-ci est en principe obligé de les prendre avant la date limite. La prise de congé, à défaut, risque de les perdre. Aucune disposition légale n'empêche en effet le salarié de continuer à travailler. au sein de l'entreprise. Mais il perçoit alors, alors sa rémunération habituelle sans indemnité supplémentaire. Donc il n'est pas gagnant. En compensation, en conséquence, les jours de congé non pris avant le 31 mai ne peuvent pas, en principe, être reportés sur l'année suivante. Ils sont ainsi irrémédiablement perdus. La période maintenant des congés payés. La période de prise de congés payés applicable dans l'entreprise est fixée par une convention collective ou un accord collectif, ou à défaut par l'employeur. Ce dernier va alors se référer aux usagers et consulter préalablement le comité social et économique, CSE. Bon, cette période doit, en tous les cas, inclure la période légale de prise de congé qui court au 1er mai au 31 octobre. L'employeur doit informer les salariés des dates applicables au moins 2 mois avant la date d'ouverture de la période des congés. Bon, l'ordre de départ un congé donc des salariés, la date et l'ordre de départ en congé relèvent du choix de l'employeur, mais ce dernier peut naturellement requérir les souhaits de ses salariés. Les jours sont communiqués à chaque salarié, ils font l'objet d'un affichage dans le local où travaillent donc tous ces gens-là. Au moins un mois à l'avance, au moment de fixer l'ordre de départ en congé, l'employeur tient compte des divers critères. Le Code du travail, article L314-16B, lui impose de prendre en compte la situation de famille des bénéficiaires correspond, qui comprend les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte, ainsi que la présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, leur ancienneté, le cas échéant, leur activité chez un ou plusieurs employeurs. Mais l'employeur peut aussi retenir d'autres facteurs tels que les dates choisies par un salarié l'année dernière ou les périodes de vacances scolaires. Un employeur peut-il modifier les dates de congé? Bon, après avoir fixé les dates et ordres de départ en congé, l'employeur peut toujours les modifier, mais doit respecter les conditions éventuellement prévues par un accord d'entreprise ou la convention collective. Ces textes peuvent notamment prévoir une indemnisation du salarié dont les dates de vacances sont modifiées, via le versement d'une prime par exemple ou une attribution de jours de congé supplémentaires. À défaut de règles spécifiquement prévues dans l'un de ces textes, l'employeur ne peut plus modifier l'ordre et les dates de départ si la date prévue pour partir en congé intervient à moins d'un mois. Voilà. Bon, il y a encore un article, c'est l'article L3141-16 du Code du travail. Une modification à moins d'un mois avant la date de départ reste toutefois possible. En cas de circonstances exceptionnelles, décès d'un collègue, commande imprévue, mais le salarié doit dans ce cas être endommagé pour ses frais de voyage. Dans un souci de preuve, l'employeur doit informer le salarié par écrit. Bon. En ce qui concerne la fermeture d'entreprise, quel congé, après consultation des représentants du personnel ou du CSE, l'employeur peut décider la fermeture de l'établissement pendant la période de congé annuel. Il peut arriver alors que les salariés embauchés récemment ne bénéficient pas encore de droit au congé d'une durée égale à la durée de fermeture de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés peuvent être indemnisés au titre du chômage partiel. Donc en définitive, un salarié qui rentre dans une société avec un contrat à durée déterminée aura beaucoup moins de congés qu'une personne qui est en poste depuis plusieurs années avec un contrat à durée indéterminée. Voilà. Comment demander les congés payés? Eh bien, il appartient à l'employeur de fixer les dates de départ en congé de ses salariés, mais le salarié peut préalablement poser ses congés payés et lui proposer ses dates de vacances. L'employeur peut alors accepter ou refuser. Il a le droit de refuser, en arbitrant notamment avec les demandes de dates émises par les autres salariés de l'entreprise. Pour faire sa demande de congé, le salarié peut adresser une lettre de demande de congé payé à son employeur. Voilà. Bon, quel salaire pendant les congés? La rémunération du salarié doit être maintenue pendant sa période de congé. Congé payé, il ne peut donc pas subir de retenue sur salaire en raison de son absence de l'entreprise. En revanche, la rémunération d'un travail chez notre employeur pendant sa période de congé est strictement interdite. Pas le droit d'avoir deux employeurs. Il constitue même un motif sérieux et réel de licenciement. Congé anticipé, un salarié peut parfois demander à son employeur de prendre des congés anticipés, c'est-à-dire des jours pris avant la période de prise de congé normalement applicable, qui débute le plus souvent le 1er juin. Le salarié qui souhaite prendre un congé par anticipation doit obtenir l'accord de son employeur. Si ce dernier accepte, les jours pris seront réduits lorsque commencera la prochaine période de référence. Toutefois, en cas d'embauche, la première année, le salarié a droit au congé anticipé. Il peut donc le prendre avant l'expiration de la période d'acquisition. Quel risque en cas de non-respect donc de la date de congé? En revanche, un salarié ne peut pas imposer à l'employeur ses propres dates de congé et en ne respectant pas celles préalablement fixées. Un salarié qui partirait plus tôt ou rentrerait plus tard de vacances risque donc une sanction disciplinaire qui peut même aller jusqu'au licenciement pour absence injustifiée. Bien que cette sanction soit valable, il faut néanmoins que l'employeur ait bien respecté ses obligations en matière d'information des salariés sur la période de congé ainsi que l'ordre et les dates de départ. A-t-on droit au congé payé la première année d'embauche? La loi travail a assoupli les règles en prévoyant que les congés payés peuvent être pris dès l'embauche. Voilà. C'est un article de Code du travail. Avant cette loi, un salarié embauché pouvait parfois attendre un an avant de pouvoir prendre ses congés. Si l'employeur refusait de lui accorder ses congés anticipés, désormais il peut prendre ses congés qu'il a acquis sans avoir à attendre. La fin de la période d'acquisition des congés payés fixe généralement les 1er juin au 31 mai, donc une année sur l'autre. Bon, l'employeur peut-il m'imposer des congés? Une entreprise a la possibilité d'imposer à ses salariés de prendre leurs congés. En pratique, c'est souvent le cas lorsque l'entreprise fait face à une baisse de son activité. Mais l'employeur qui souhaite contraindre un salarié à prendre un congé doit respecter les règles du Code du travail. Les conditions applicables au congé payé imposé par l'employeur sont donc spécifiques. Les jours d'absence donnent-ils droit au congé payé? Eh bien, jusqu'à une date récente, donnait droit à des jours de congés payés, le temps de formation, tous les congés payés, y compris ceux pour événements familiaux, absences pour maladie ou accident de travail, décès ou autre, les repos compensatoires, le congé maternité ou le congé d'adoption, ainsi que les jours d'absence consécutifs à accident de trajet, domicile, lieu de travail, cours de cassation, etc. etc. En revanche, les absences pour maladie n'étaient pas comptabilisées. Voilà. Trois arrêts sur la Cour de cassation du 13 septembre 2023 ont modifié ces règles, se basant sur l'article 7 de la directive. Des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces arrêts considèrent les arrêts maladie comme des périodes de travail effectives. En d'autres termes, les absences pour maladie sont désormais comptabilisées pour le calcul des congés payés, même s'il ne s'agit pas de maladies professionnelles ou d'accidents de travail. Selon le même arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, si un salarié tombe malade pendant ses vacances, il a désormais droit de reporter ses jours de congé restants. La loi votée en avril 2024 a donc transposé dans le Code du travail une nouvelle règle en vigueur et apporté plusieurs précisions. Les arrêts maladie pour accident non professionnel donnent droit à deux jours de congé par mois d'absence contre 2,5 jours pour les autres types d'absence à la limite donc de 24 jours ouvrables par an, ce qui équivaut aux 4 semaines de congés payés garantis par le droit européen. S'il n'a pas pu prendre ses congés payés pour cause d'absence, pour accident ou maladie ou autre, le salarié peut les reporter sur une période de 15 mois après la reprise du travail. La loi rétroactive. Les nouvelles dispositions sont applicables aux congés non pris entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024. Date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cette rétroactivité diffère selon que le salarié est en poste ou non. Un salarié en poste peut demander à son employeur deux jours de congé payés par mois pour les absences pour maladie ou accident non professionnel qui sont intervenus avant l'arrêt, avant l'entrée en vigueur de cette fameuse nouvelle loi. La demande doit intervenir dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Un salarié dont le contrat de travail a été rompu, quelle qu'elle soit la cause, peut demander à son ancien employeur 2 jours de congé payés par mois pour les absences pour maladie ou accident non professionnel. Voilà. En fait, tout ceci peut être un arrangement entre le salarié et son employeur. Chacun peut être libre de donner de donner son avis, d'accepter oui ou non ce que demande donc le salarié. Voilà. En fait, c'est un dialogue entre l'employeur, bien souvent, et aussi le salarié. Voilà. Il est pas loin de 15h, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Je vous dis donc à très bientôt sur Radio Galère 88.4 et très certainement à mercredi prochain. Bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Et merci de votre écoute.
Moi j'ai pas de tabou, moi j'ai pas de tabou, donc ferme-la ta bouche, donc ferme-la ta bouche, sinon avec ta bitch, je vais faire du volleyball, je te vends la Molly Boy, je te vends la Molly Boy, je te prends là et tu mouilles, n'en parle pas à ton boy, j'ai trop aimé ta bouille, j'en veux pas à ton boy, mais c'est une Game Boy, je suis la PlayStation, je vends des prestations, des putains de prestations, car si tu me presses à fond, on t'agite pas fume fume, tu vas être tout foufou, tout foufou. Moi j'ai pas de tabou, j'ai pas de tabou, j'ai pas de tabou, pas de tabou, j'ai pas de tabou, j'ai pas de tabou, j'ai pas de tabou, j'ai pas de tabou. Moi avec ta bitch,
I'll change your life.